Vous pouvez chercher donc aux Hébreux chapitre 13 pour nos invités de Genève. Donc, nous sommes en train de finir une étude de l'Épître aux Hébreux et nous sommes en train de voir les exhortations qui étaient données aux chrétiens pour qu'ils continuent leur pèlerinage vers le vraie cité. Qui continue à marcher près de Dieu à travers toutes les différentes difficultés et persécutions auxquelles il devait faire face. Et donc, on arrive presque à la fin et nous allons lire un petit texte qui a beaucoup d'informations différentes dedans. Et nous allons voir que c'est un tout petit peu difficile de juste rester sur une seule idée, mais on va essayer de le faire parce qu'on va voir qu'il y a quand même un thème qui est souligné du début jusqu'à la fin. Donc, on commence au verset 7 et on va lire jusqu'au verset 16. Hébreux, chapitre 13, les versets 7 à 16. « Souvenez-vous donc de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, car les corps des animaux dont le sang était offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à Jésus en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bon, notre texte commence au verset 7, et puis juste pour vous dire, pour le verset 7, je ne vais rien expliquer, c'est juste un qui va reprendre, parce qu'au verset 17, on a aussi un passage sur les conducteurs. Donc, c'est déjà fini. On a déjà fait un verset. Le verset 8, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Des gens qui discutaient, vous êtes en train de parler avec eux et peut-être ils parlent d'une chose ou d'une autre et ils disent, mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et puis pour l'éternité. Et j'aimerais juste commencer avec ce que cela ne veut pas dire. Première chose que j'aimerais dire, c'est que nous savons qu'à un moment donné, Jésus, donc avant son incarnation, existait comme la parole éternelle de Dieu. Nous savons que le monde a été créé par lui. Jean nous dit au début de son évangile, il dit « Au commencement était la parole ». Et puis au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous ». Et donc, il y avait dans sa nature, à travers l'histoire, un moment où la parole n'était pas incarnée et donc était différent. Et puis, il y a ce moment où il est incarné, il y a le moment aussi où il est glorifié. Si je me souviens bien, après sa résurrection, nous savons qu'il pouvait apparaître et disparaître, il pouvait se cacher son identité ou révéler son identité comme il voulait. Il était différent. Il était faible, mais est devenu fort. Il était mort, mais ressuscité. Il est passé de méprisé à la gloire. Et il y a pas mal de choses qui ont changé pour lui. Et même pendant sa vie, nous savons que pendant sa vie, Jésus n'était pas le même Jésus à travers toute sa vie. Comme enfant, quand il est né, il n'est pas comme le Jésus que nous voyons plus tard. Il est, quand il a 12 ans, il se soumet à ses parents. Mais quand il commence son ministère, il dit à sa mère, « Qui as-tu entre toi et moi, femme ?» Et puis, il dit qu'il doit accomplir la volonté de son propre Père. Nous voyons qu'il change à travers tout cela. Nous voyons que même parfois, dans les mêmes livres, il n'est pas la même chose. On lit le début de l'Apocalypse et Jésus est comment? Ben, il est fort, il est puissant, il a les yeux qui sont des feux, les cheveux qui sont blancs, il a les pieds qui sont en bronze et feu, il a une épée qui sort de la bouche, il est prêt donc à vaincre ses ennemis. Et puis on tourne quelques pages et on trouve quoi? Un agneau couronné sur un trône, mais immolé. Immolé qui a donné. Et donc, de dire juste que ouais, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain, pour l'éternité, ça ne va pas pour certaines choses. Il faut quand même qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Qu'on comprenne. Parfois, nous avons nos amis qui donnent des faux enseignements. Par exemple, ils disent Jésus a fait des miracles, et donc, comme ça, et donc il veut que tout le monde soit guéri, que tout le monde n'y ait pas d'aveugle, qu'il n'y ait pas de paralytique, qu'il n'y ait pas de personnes qui sont malades, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Bon, c'est vrai que Dieu guérit, c'est vrai que Dieu est à l'œuvre dans notre monde, mais d'utiliser cela pour un argument pour dire que chacun doit être guéri, il me semble que ça ne correspond pas à ce que nous avons ici. Ben, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une Église qui lutte à rester fidèle dans leur enseignement et qui lutte à persévérer, c'est-à-dire à rester attachée au Christ. Et ce qu'il veut dire, c'est assez simple. Ce qu'il veut dire, c'est que le Christ qui a donné sa vie hier, qui vous sauve aujourd'hui et qui prépare votre avenir, il est le même. Et donc, il ne faut pas le quitter. S'il y a quelque chose de sûr dans ce monde, c'est d'être en Christ. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est de rester en lui. Il ne change pas. Il va sauver. Lui, il ne change pas. Il prépare un avenir pour nous. Et donc, c'est cela qu'il est en train de dire dans notre texte. Il est le même. Et donc, vous pouvez compter pour lui. Nous changeons. Mais lui, il ne change pas. Il est le Dieu, disons, le Jésus de votre jeunesse. Il veut être le Jésus de votre vieillesse. Il veut vous accompagner à travers chaque étape de votre vie. Et donc, vous pouvez être sûr de lui. Hier, dans les évangiles, comment est-ce qu'on comprend le Jésus d'hier? Bon, c'est de regarder dans les évangiles, c'est de plonger notre regard dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est de comprendre qui il est. Et aujourd'hui, bon, c'est celui qui nous sauve et qui nous façonne à travers son esprit. Et pour l'éternité, bon, c'est l'assurance de notre avenir. Vous savez que Jésus, dans ses places, il a changé dans l'espace. Avant, il était avec le Père, comme le Logos, hein? Après, il était avec nous en forme humain, pour rester avec nous. Et même son nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Nous savons que maintenant qu'il est homme, mais assis à la droite de Dieu. Donc le lieu a changé et il règne au-dessus de toutes choses. Et nous savons qu'il envoie maintenant et qu'il est présent par son esprit parmi nous. Et donc ce que cela veut dire, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, c'est que nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Il nous accompagne dans les difficultés, il nous donne la force pour aller en avant et il continue à nous laver par son sang. Et nous savons que son salut est efficace et son travail ne change pas. Il ne faut pas aujourd'hui un Jésus plus. Nous avons le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le verset 9, il dit, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Bon, je suis désolé, vous êtes enseigné aujourd'hui par un étranger anglo-suisse. Je suis désolé, mais anglo-suisse. Il ne parle pas de ça, mais l'idée d'étranger, c'est vraiment cette idée des gens qui vont introduire autre chose. Donc, on pourrait se dire, mais quel est cet enseignement étranger que nous avons? Bon, regardez le verset qui suit. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. Waouh! C'est ça qu'il dit. Comment? Quelle est cette nouvelle que Dieu nous a donnée? Bon, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, un don qui dit que Dieu est à l'œuvre pour nous amener à lui. Okay? Et toute doctrine étrangère serait toute doctrine qui va diminuer la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes consolés en regardant cette grâce, ce dessein de Dieu pour nous sauver. Et notons bien, il va l'opposer à quelque chose. Et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui ont usé. Bon, il parle de quoi, ces aliments-là? Okay? Il y a des gens qui sont venus de Genève aujourd'hui, ils se sont arrêtés à Burger King. Ce n'était pas pour un culte qu'ils ont fait cela, même si... C'est une des raisons pour lesquelles ils sont venus aujourd'hui. Oh ouais, on peut venir à Lausanne parce qu'on va s'arrêter à Burger King. Et puis, donc, on est gonflé de foule là. Alors, mais c'est pas ça. L'idée, c'est que on peut avoir, comme nous vous avons dans la loi des Israélites, des lois qui sont au niveau de ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, ce qu'on peut boire, ce qu'on peut pas boire, etc. Et toutes ces choses, Dieu les a instaurées pour séparer son peuple des cultures autour. C'est-à-dire, c'était pour protéger son peuple. Aujourd'hui, donc, en Christ Jésus, Jésus le dit lui-même, que ces règles sur l'alimentation ne servent plus à rien au niveau de notre sainteté et notre relation avec Dieu. Okay? Il y a des gens qui prêchent les bananes. Okay? Ils disent, si vous avez un problème, il faut manger plus de bananes. Si vous avez des problèmes de vous concentrer, mangez plus de bananes. Okay? Si vous avez des problèmes, des crampes, mangez plus de bananes. Okay? Et on peut avoir cette croyance de manger plus de bananes. Mais manger des bananes ou ne pas manger des bananes ne va pas vous rapprocher de Dieu. Vous comprenez, hein? Ça c'est. Mais parfois, on va dire, non, bah, ça, il ne faut pas, parce que, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va s'éloigner de Dieu. Okay? Abstenir de certaines nourritures ou de la nourriture pour un moment, pour Dieu, est une bonne chose. Mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'impact salutaire là-dedans. On peut abstenir et apprendre à dire non, comme on peut apprendre à faire de bonnes choses et apprendre à dire oui à d'autres choses. Et donc, vous savez très bien qu'il y a des gens qui arrivaient dans l'église et puis ils disaient, écoutez, ça va très bien ici, mais il y a juste certaines choses. Si vous éliminez ça, okay, comme nourriture, et puis n'oubliez pas ceci aussi, et puis moi je dirais de ne pas manger ça, ni ça, ni ça, et puis je peux vous montrer quelques passages de l'Ancien Testament, alors vous allez voir que votre relation de Dieu, ça va être le turbo. Hein. Okay? Vous allez vraiment aller en avant. Bon, il dit, ça ne sert à rien. Disons, on peut apprendre discipline, on peut apprendre des choses, mais ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la grâce de Dieu, ce que Jésus nous a donné. Et n'aimez-vous pas qu'il dit, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il est bon. Et pas à travers une liste de lois que nous sommes obligés de suivre. Bon, ça nous aide parce qu'on arrive au verset 10. Vous dites finalement, mais on arrive au verset 10, nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Waouh, il parle de quoi là? Okay. Bon, si vous aimez l'Ancien Testament, et spécialement le livre d'Exode et Lévitique, hein, alors vous bavez quand vous lisez ce passage. Okay. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, quand ils offraient des sacrifices, les gens apportaient des sacrifices, ils pouvaient participer à manger certaines choses qui étaient là. C'est-à-dire, quand ils m'ont donné des... Par exemple, on tuait l'animal, on mettait des cuisses dessus, et puis ils pouvaient garder une partie de cela. Il y avait des portions qui étaient pour les prêtres, souvent les portions qui étaient pour ceux qui sacrifiaient, et puis d'autres parties qui étaient totalement pour Dieu. Il y avait même des offrandes. Quand on allait au temple, et on passait l'offrande devant l'autel, et puis on donnait aux prêtres. Et donc, c'était un sacrifice de celui qui donnait, mais ce n'était pas nécessairement offert à Dieu, mais c'était mangé par les prêtres. Et donc, il y avait une communion à l'autel par les prêtres. Mais il y a un sacrifice qu'ils ne pouvaient pas manger. Et ce sacrifice, c'était le sacrifice pour les péchés. C'était les holocaustes, c'est-à-dire les grands holocaustes qu'on offrait pour les prêtres et pour les gens qui avaient péché. Vous trouvez cela si vous commencez Lévitique et vous commencez au début, vous allez le retrouver quelque part. Non, c'est au chapitre 4, le verset 12. et puis plus tard au Lévitique 16, le verset 26. Et là, on parle des taureaux qui sont offerts et les sacrificateurs ne peuvent pas les manger parce que c'est pour les péchés. Et non seulement cela, une partie est brûlée sur l'autel, mais on prend la peau, on prend les entrailles, les autres choses dehors de la ville et on va les brûler là-bas, ces cendres en dehors de la ville. Et puis celui qui fait cela doit se purifier lui-même avant de pouvoir entrer de nouveau dans la cité, dans la ville. Alors, on dit, mais s'il y avait une chose banale et ennuyeuse dans les Écritures, c'est cette histoire-là. Mais non. L'écrivain aux Hébreux dit, mais c'est une image d'autre chose. C'est-à-dire, nous participons à un sacrifice qui est aussi un sacrifice de péché, et ce n'est pas d'un taureau ni d'un bouc, mais c'est quoi? C'est Jésus qui a été offert comme sacrifice où? Au-delà de quoi? De la porte, c'est-à-dire en dehors de la ville. Okay? Et donc, n'oublions pas, on avait ce sacrifice, on devait sortir les cendres et puis finir de brûler l'animal en dehors pour le pardon des péchés. Okay? Les gens, les prêtres ne pouvaient pas avoir une communion avec, disons, manger de cet aliment parce que c'était pour le péché. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un sauveur qui a été tué où? Bon, Jean chapitre 19 nous dit, il était crucifié en dehors de la porte, un croisement de route. Okay? En dehors de la porte. Et donc Jésus, le sacrifice pour nous, meurt pour les péchés du monde entier en dehors de ça. Et nous sommes quoi? Nous sommes nourris. Nous sommes pardonnés à travers cela. Nous recevons donc la vie éternelle à travers cela. Et les pauvres prêtres qui étaient en train de faire les sacrifices dans le temple, eux, ils n'ont pas eu accès à ce que nous avons accès. Vous comprenez cela? Si vous voulez chercher le lieu où Jésus a été crucifié, okay? Jean chapitre 19 nous dit très clairement qu'il était crucifié en dehors des murailles. Golgotha se trouvait en dehors des murailles de la ville de Jérusalem à l'époque. Et donc ça, c'est tout un symbole de Jésus donc qui donne sa vie comme sacrifice pour nous, et il est tué en dehors de la ville pour nous donner ce pardon. Donc vous voyez que même parfois des détails les plus obscurs de Lévitique et d'autres peuvent avoir un sens important pour nous. Et vous avez accès à cela. Vous avez accès à ce Jésus qui donne sa vie pour nous. C'est au verset 12. Donc, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est assez intéressant. Il dit « a souffert hors de la porte ». Vous le voyez? A souffert. Il ne dit pas « a été crucifié », même si cela fait partie. Parce qu'on pense aussi à quoi? On pense à Gethsémané, qui est où? En dehors des murailles de la ville. On pense à sa trahison, qui est dans ce même jardin. Nous pensons à sa crucifixion qui a lieu en dehors. Et donc, toutes ces choses parlent de sa souffrance. Et donc, le verset 13, il dit, « Donc, sortons hors du camp pour aller à lui en portant son aux pauvres. » L'idée, c'est que, quittons ces lois alimentaires, quittons cette alliance ancienne, quittons pour nous attacher à celui qui est notre vrai sacrifice. La loi est terminée. Nous vivons sous le Christ. Et puis, il dit une dernière chose au verset 14, en parlant de ces murailles et de cette porte de cette ville, il dit, « Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » C'est très important parce que nous voyons dans notre passage que les gens qui sont les exemples de foi, ce sont des gens qui étaient des pèlerins sur la terre pour arriver chez, disons, la terre promise. Mais ils ne sont jamais arrivés. Ils ont salué de loin Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ils ont salué de loin cette terre qui leur était promise, cette cité permanente. Et finalement, quand David a pris la ville de Jérusalem, c'était une cité permanente, mais pas la nôtre. Parce que même avec toute sa gloire, elle n'a pas pu remplir ou satisfaire toutes les attentes que nous avons de pardon et de relation avec Dieu. Il fallait plutôt que Jésus vienne pour faire cela. Et donc, nous attendons en cherchant ce qui est à venir, c'est-à-dire une promesse qui est donnée par Dieu. Et puis après, au verset 15, il dit par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bon, là, on arrive à ce qui est clé dans notre texte. C'est un texte qui parle, pour moi, d'une chose. C'est notre louange à Dieu. C'est notre adoration. Il parle d'une ancienne alliance qui est celui qui était le culte dans le temple, avec ses fêtes religieuses, avec ses sacrifices de chaque jour, de chaque semaine, de chaque lune, avec ses pratiques qui avaient lieu avec les prêtres et tout. C'était une manière d'adorer Dieu. Et même le juif ou l'israélite, en accomplissant toutes ces différentes choses, savait que ce n'était pas la totalité d'un louange à Dieu. Il savait qu'aller avec un agneau et l'offrir, c'était une partie de leur louange, mais il savait qu'il y avait quelque chose d'autre. Comme le peuple demande à Michée, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles? Donc il dit, est-ce qu'il y a un sacrifice assez grand pour louer Dieu? Et la réponse de Dieu, c'est quoi? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc chaque Israélite savait qu'il y avait des choses externes, mais il savait aussi que le vrai louange, c'était sa vie qui cherchait à faire ce qui était droit, ce qui était loyal, et de marcher humblement avec Dieu. C'est pour cela que cet écrivain, il va écrire plein de choses. Il dit, les sacrifices, ils disent, ne mènent pas à la perfection. Les ordonnances charnelles, c'est l'alimentation que les autres vont demander. Ce sont des choses momentanées. Mais en Jésus, qui est le même, quoi, hier, aujourd'hui et pour l'éternité, nous avons une vraie adoration. Le royaume n'est pas manger et boire, mais c'est justice et paix et joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un aliment qui va nous rapprocher de Dieu, mais c'est une obéissance à lui. Et donc, on parle beaucoup ici de louange. Dans notre texte, vous voyez au verset 15, nous offrons sans cesse un sacrifice de louange. Oh! Il dit sans cesse. Il ne dit pas une fois par semaine, nous offrons un louange, ou deux fois par semaine. Ce qui se passe ici, c'est que cette adoration de Dieu, c'est quelque chose qui a lieu de jour en jour en jour. Okay? Nous l'adorons. Nous lisons la Bible, nous prions Dieu, mais nous louons Dieu aussi tous les jours. Et une des choses que vous pouvez imaginer, c'est comme Larry a fait avec nous aujourd'hui, c'est d'avoir votre livre rouge ou votre livre bleu et de chanter pendant que vous lisiez un texte. Ou c'est de lire ces différentes choses. Ou c'est d'accompagner ou entonner quelque chose pour le Seigneur. Ceci est quelque chose qui va rester avec vous. Vous savez que ma mère passe par un moment qui est très, très difficile. Elle, parfois, est totalement désorientée. Elle a chuté trois fois les derniers 15 jours. Il y a des nuits où elle ne reconnaît même pas sa propre maison. Et il y a des nuits où ça va beaucoup mieux. Et j'ai parlé avec elle hier, et puis elle avait passé une nuit qui n'était pas très facile avant, où elle était... Elle n'était pas très à l'aise et puis désorientée. Et je lui ai posé la question, « Maman, comment vas-tu dans ton esprit et émotionnellement ?» Elle dit, « c'est dur et tout. » J'ai dit, « spirituellement, comment ça va ?» Et puis, elle me dit ceci. Elle dit, « Je prie, mais j'ai toujours beaucoup prié. » Donc, j'ai prié. Et je chante aussi. Et je trouvais que c'était merveilleux de penser à ma mère qui a tellement de difficultés. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue Dieu. Elle loue Dieu. Et donc, notre texte dit ici qu'une des choses que nous pouvons, c'est de louer Dieu en confesse. C'est le fruit de nos livres, fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et donc, le fait juste de chanter « Gloire à ton nom, Jésus », okay? Ou « Jésus, c'est le plus beau nom », ou les choses que nous avons faites, ou de dire « Jésus, tu es le Seigneur, tu es au-dessus de toute autre chose, et de confesser son nom. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons un louange de tous les jours. C'est autant important, c'est aussi important que votre vie de lecture biblique. C'est autant important, aussi important que votre prière. C'est de le louer. Et notons bien, il dit, nous le louons sans cesse. Nous ne savons pas grand-chose du ciel, mais il semble qu'il y aura des moments pour louer. 10 minutes de chant, suivi par... je ne sais pas, mais on croit que c'est le cas. Deuxième chose que nous remarquons dans notre texte, et n'aimez-vous pas cela, il parle de la bienfaisance et la libéralité. Et notons bien que ces deux choses que nous avons ici, au verset 16, donc il dit, au verset 16, je l'ai mis où là? Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Okay? Wow! Donc là, on a autre chose. Donc, il y a ceux qui disent, moi, j'aime pas chanter. OK? Bon, tant pis. Okay? C'est une manière de louer Dieu. OK? Ou de confesser avec votre voix, c'est une manière de louer Dieu, et il dit de faire sans cesse. Donc, développons cette envie de le faire. Si vous dites, je le fais pas, développez quand même l'envie de le faire. Et puis, on va voir ce qui se passe. Deuxième chose ici, c'est que, bon, il y a deux autres possibilités. C'est bienfaisance, c'est-à-dire de faire de bonnes choses pour les autres, et puis la libéralité, c'est-à-dire de vivre une vie généreuse envers les autres. Et il dit ici, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Noé quitte l'arche. Il est reconnaissant à Dieu de l'avoir sauvé avec tous les animaux. Que fait-il? Bon, il prend un pauvre bélier, mais il va le sacrifier à Dieu. Et ceci est un odeur agréable à l'Éternel. Okay? Dieu, il prend plaisir à cela. Et Dieu ne demande pas maintenant que nous lui offrons des bêtes, mais ce qu'il demande, c'est que nous vivons une vie de bienfaisance et de libéralité. De penser que chaque fois que je fais du bien, au nom de Jésus, je suis en train de louer Dieu. C'est une adoration. Chaque fois que j'aide quelqu'un d'autre, au nom de Jésus, je suis en train de faire ce que Dieu demande, je suis en train d'adorer. C'est comme si on était en train de le louer à travers nos voix, nos mains, nos corps. Nous sommes en train de faire de cette manière. Et puis après, il dit la libéralité. La libéralité. C'est de vivre avec générosité. C'est de donner aux autres. Okay? Je crois que c'est Jésus qui m'a dit, corrigez-moi, mais Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donc quoi? Donner gratuitement. Okay? Vous avez reçu. Et donc, nous sommes appelés à vivre avec générosité. Okay? Comment est-ce qu'on dit dans le canton de Vaud? Le chrétien, on ne dit pas avare, on dit quoi ici? Pang? Pang, oui, pang. Ou il y a d'autres choses, hein, on dit. Hein? Radin. Radin. Okay? De vivre. Un chrétien qui vit sans libéralité, qui amasse pour lui mais qui ne partage pas, il y a un problème, on est d'accord. De vivre avec générosité, et ça peut être à travers l'hospitalité, ça peut être à travers le temps qu'on donne, ça peut être avec l'argent peu ou beaucoup que nous avons, de partager avec les autres, mais ça devient à ce moment-là un louange ou une manière de louer notre Dieu. Et ce que nous apprenons, c'est que chaque fois que vous faites du bien aux autres, et chaque fois que vous partagez avec les autres, vous vivez avec libéralité, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez un sourire sur le visage de Dieu. Dieu sourit. Dieu sourit. Donc, je crois que c'est un texte, pour moi, qui parle vraiment de l'adoration. De l'adoration de l'Ancien Testament, centré sur les sacrifices qu'il devait souffrir. L'adoration que nous avons en Christ Jésus, nous sortons du camp et nous cherchons cette cité permanente. Une adoration donc qui est faite en trois parties, nos louanges, notre œuvre bonne et notre libéralité. Et donc, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Une visite à quelqu'un de malade devient un moment de culte. Pour louer Dieu. un moment de prière avec quelqu'un qui est découragé devient quelque chose qui loue Dieu de tout notre cœur. De partager un sandwich avec quelqu'un qui n'a pas devient un sacrifice qui est offert. Et c'est cela que nous faisons sans cesse. Je crois que j'aimerais juste finir avec cette idée que on a déjà été appelé avant par l'écrivain de faire ceci, c'est de louer notre Dieu avec reconnaissance, avec piété et avec crainte. Mais nous arrivons à voir autre chose. C'est-à-dire, nous arrivons à voir que nous pouvons louer Dieu en toute situation. Notre texte pose la question, où louer Dieu? Ni ici, ni là, Jésus a dit, mais en lui. Nous apprenons, c'est en dehors du camp que nous louons. Sortons donc et rencontrez Dieu. Cherchez la cité permanente, celle qui est à venir. Et par Jésus, nous offrons notre culte. Ce n'est pas par des animaux, mais c'est par des êtres humains qui se donnent totalement par la foi à Jésus et qui vivent pour lui chaque jour. Merci pour votre attention.